Radio Canu. Si vous nous écoutez, c'est que vous n'êtes pas seul.
Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Échecs et Glutamate.
L'émission déjantée à l'heure du
goûter.
Donc comme vous le savez, c'est une tradition, je vais commencer par mon billet politique. Vous vous souvenez de mon billet politique de la semaine dernière, bien Jérôme sûr. Et compagnie. Voici mon billet politique d'aujourd'hui. Voilà, c'est la fin du billet politique. Comme quoi,
merci.
Les gens qui parlent de politique ou les politiques eux-mêmes, des fois quand ils se taisent, ça peut faire du bien. Alors, le vintage est un phénomène transplanétaire. Depuis le début des années 2000, cette mode, ce style marqué par ses couleurs, ses marques et son ancienneté, a inondé notre quotidien. La liste est longue, mais je veux vous dire qu'à chaque fois que vous regardez une automobile passer, une paire de lunettes, une affiche de concert, ou que vous vous trouvez dans le salon cosy de Capitaine Beefsteak, ou que vous regardez le style et la démarche nonchalante de notre ami Prof Tob, le vintage est bien là et partout. Parfois, ce trop-plein de nostalgie peut pousser au vomissement, mais il s'explique de manière simple et sans détour. Oui, le vintage nous donne du baume au cœur, le vintage est une échappatoire, un rêve lointain, provenant du passé qui nous permet de nous échapper de cette société en déclin. Le vintage nous ramène tout droit vers les 30 glorieuses. 30 années de bonheur qui nous rendent envieux. 30 années dépourvues de chômage. 30 années de frivolité, d'insouciance, mise en scène par exemple par Jacques Tati. 30 années de musique cosmique jouée par d'innombrables génies. 30 années où la femme aussi s'est émancipée du joug masculin. 30 années que tu aurais bien expérimenté du coup. Alors, si pour toi vintage rime avec nostalgie, écoute Échec et Glutamate, mais surtout Prof Tob et Capitaine Beefsteak qui sont les deux reliquats vintage de cette émission. Oui, pour te faire une idée, le premier est un vinyle de Syd Barrett, zébré de cocaïne, le second un poussiéreux livre de Jean-Paul Sartre, Le diable et le bon Dieu, oublié dans un internat de jeunes filles. Grâce à ces deux compères, ta joie de vivre renaîtra, tu verras. Mais vous vous demandez sans doute pourquoi faut-il toujours que je m'en prenne à vous, hein ? Pourquoi suis-je jaloux de votre vie de débauche, vous, mes chroniqueurs préférés ? Hein ? Peut-être parce que vous avez bu des litres d'acide que vous avez chopiné avec votre ami Denis Hopper ? Ou alors vos liaisons sulfureuses que vous avez eues avec Brigitte Bardot et Michel Mercier ? Oui, je suis jaloux de vous, messieurs. Comment allez-vous ?
Ça va, et toi ?
Ça va. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme petite chronique aujourd'hui, mon prof Tom ?
J'ai rien fait du tout comme chronique aujourd'hui. J'ai fait un switch, j'ai dit ras-le-bol d'écrire à chaque fois et tout, à l'ancienne, j'ai rien écrit.
D'accord.
Mais j'ai ramené du son.
T'as ramené du son ?
Du son vintage.
Mmh.
Ouais.
C'est un peu surprenant.
Oui, j'ai. Qu'est-ce que je te dis ?
D'accord, bon, génial, je sens qu'on va se régaler pour cette émission.
Oui, non, mais on se chauffe, ça va se mettre en
train. Bah oui, non, mais je vois ça.
Tu veux que je te balance un petit son?
Oui, non.
Ok.
On va passer, si après, t'inquiète pas. On va passer à un morceau vintage hein, qui a bien marqué quand même ces années-là. Hein. Un petit morceau de notre amie Donna Summer, à tout à l'heure.
Need to dream by the railroad track. Elle a l'air d'être sortie de la chaîne voici 10 ans, et pourtant, elle vient de naître. Les jeunes regrettaient la bonne vieille deux pattes, il fallait abaisser le prix du bas de gamme, alors Citroën a décidé de revenir sur ses pas et a fait du neuf avec de l'ancien. Résultat, la 2 chevaux S. S comme spécial, S aussi comme simplifié, certains diront comme sommaire. Pour l'intérieur, retour au siège en tube, mais monté sur glissière. Retour aussi à un tableau de bord bien connu et aux charnières de porte apparentes. Rien à dire jusque-là, tout cela respire la rusticité, mais remplit son office. Un regret toutefois, la suppression du cendrier. À l'extérieur, même souci d'économie, tous les enjoliveurs ont disparu et les phares ronds sont revenus. Là non plus aucun reproche, hélas la troisième vitre latérale a elle aussi disparu, d'où visibilité réduite. Côté mécanique, rien de changé, le moteur est celui de la 2 chevaux 4. Et cette automobile, au passé simple, sera à vous pour la somme tout de même assez élevée de 11 852 francs. Économique, à l'usage, c'est vrai. Accrocheuse, c'est vrai aussi, la 2 chevaux tient la route. Parfois même, elle la tient toute si vos biceps ne sont pas assez puissants pour maîtriser en virage un volant épris d'indépendance. Mais ce sont là des qualités et des défauts bien connus, comme d'ailleurs la faculté de la 2 chevaux de se transformer en véhicule tout-terrain et son freinage hésitant. Bref, la 2 chevaux spéciale, c'est la continuité sans le changement. Mais ce petit côté désuet de la voiture ne manque pas de charme. Les puristes en seront sans doute ravis, en tout cas chez Citroën, on l'espère.
Et oui, vous êtes bien sur le store de Radio Canu, oh, la plus rebelle des radios.
Ça, c'était du jingle, là. Ça, c'était beau, ça.
Ça, c'est fait maison, ça.
Ah, tu gères la technique. Ça, je suis admiratif.
Du artisanal. C'est du bio Radio Canu. Du bio Radio Canu, ce jingle. Oui, alors, vous avez certainement dû comprendre qu'on est en plein dans une époque. On a choisi donc le thème vintage aujourd'hui pour vous faire plaisir. Et c'est vrai que s'il y a un petit soupçon de nostalgie dans les studios de Radio Canu. Mais on va quand même se faire plaisir grâce à, avec nos chroniqueurs qui vont bientôt démarrer, hein, il serait peut-être temps d'ailleurs. Mais avant, on va écouter un petit son. Oui, un petit son qui va faire frémir le petit cœur tout mou de notre ami Prof Tob. Un son que nous avons chanté longuement durant ces 30 dernières années.
C'est pour moi ?
Oui, c'est pour toi.
Je suis ému.
Oui. Voilà. Séquence émotion.
We can climb so high, I never wanna die. Quand j'ai appris que le thème d'échecs et glutamate était vintage, je me suis tout de suite dit « Ah bah facile, je vais pouvoir parler de la garde-robe de ma mère ». Et puis je me suis penchée un peu plus sur la dite garde-robe et force est de constater que ce n'est pas comme le cochon où tout est bon. Si quelques pièces peuvent me rendre folle de jalousie, d'autres prêtes à rire. Qu'est-ce alors que le vintage ? Un emprunt vestimentaire qui doit dater au plus tard des années 80 et qui se démarque de la fripe, car il est, selon Wikipédia, le reflet d'une authenticité, que ce soit par la marque, les techniques de couture ou les tissus employés. Il faut donc que ce soit un habit de la classe quand même. Attention à ne pas friser le ridicule et surtout ne pas faire rire. Même si l'emprunt au passé, c'est dangereux tout de même. L'objet ou le vêtement doit être gage de qualité et refléter un tant soit peu le vieil adage du « c'était mieux avant », tout en se combinant aisément à notre époque. Sinon, ça ne fonctionne pas. Si je prends par exemple au hasard la fraise, qui remplit ses conditions, sorte de col immense porté par les nobles, luxueux, et qui fit fureur au XVIe et XVIIe siècle. Même si cette collerette a ses adeptes, elle ne remporte pas le succès des foules amatrices de vintage. Et ceux qui en portent font plus penser à Médor sortant de chez le Veto. Il y a donc un code vintage difficile à définir, car il est basé sur le temps qui passe, et ce fichu temps, il passe tout le temps. Le goût, la mode, évolue. On pourrait donc parler de devenir vintage, et on n'est toujours pas plus avancé. Le vintage se définit en même temps qu'il se crée. Déjà, il ne se borne plus au vestimentaire. Il existe la musique vintage, la photo vintage et le rétro. Dans la même lignée se retrouvent dans les objets du quotidien en masse. D'où vient donc cet engouement? Est-ce un refus de l'évolution? Une phobie du futur? Le monde va trop vite? C'est la faute d'Internet? La mondialisation? La Formule 1? En bonne radine que je suis, je pense tout de suite à la crise, qui d'ailleurs est un bon bouc émissaire, en toute occasion. Quand on n'a plus de thunes, on va aux Emmaüs. On fait une bonne occasion et l'on peut dénicher une perle rare que l'on nommera vintage. Est-ce la vraie raison? Évidemment non, puisque les bons accessoires vintage coûtent une fortune et les tenues d'Emmaüs chinées ont surtout été utilisées comme déguisement. Ce retour au basique a tout d'abord quelque chose de rassurant, une reconnaissance humble envers les vertus anciennes. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. À la manière de la Renaissance, où les humanistes en littérature se sont efforcés de faire renaître au XVIe siècle la pensée et la culture de l'antiquité gréco-romaine. Rassurant, oui, mais pas que, car ces reprises sont décontextualisées, mises au goût du jour, upgradées. Un look vintage se veut vintage. Lorsque l'on veut une robe des années 50, on l'intègre ainsi, à notre époque, avec le décalage que cela crée. J'explique avec cette métaphore de Sartre et la banane sur la littérature. J'ai toujours considéré les bananes comme des fruits morts, dont le vrai goût m'échappait. Pour savoir ce que c'est, il faut manger sur place, quand on vient de les cueillir. La littérature, comme les bananes, meurt de voir sa consommation différer. La littérature ne s'écrit, ne doit s'écrire que là, dans l'instant. Pour l'instant, sans possibilité d'évasion hors de la clôture de cet instant. Il y a donc création d'un nouveau style, et non calque d'un style désuet, mort, selon Sartre. Un mélange de deux époques, en somme, via le dress code. Une vraie création poétique. Une espèce de monstre à 2, 3, 1000 têtes, mais un monstre mignon. Je me suis d'ailleurs demandé, en parlant poétique, si le vintage pouvait s'acoquiner avec le langage. Existe-t-il une langue rétro? On peut relever un attrait particulier déjà, comme un retour aux sources avec les mots anciens, et les dictionnaires qui fleurissent sur les patois, la langue des canuts, ou bien encore les 100 mots à sauver de Bernard Pivot, qui apparaissent presque comme exotiques. On reconnaît le mot, il est français, mais il n'est pas tout à fait à sa place. Une impression curieuse de langue étrangère dans sa langue maternelle, pour reprendre Deleuze dans Critique et Clinique. Ce livre débute par la phrase de Proust « Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère ». Et c'est un peu la même impression que j'ai lorsque j'écoute une personne âgée. Ainsi j'en arrive à cette question. Est-ce que mémé est vintage de la langue? Alors évidemment, j'écarte tout de suite Pépé Robert, pilier du bar au PMU du coin, qui bafouille 2-3 conneries. Ici, on s'approche plus des brèves de comptoir. Non, je vous parle de la personne âgée qui prend son temps, qui se soucie de l'exactitude des mots qu'elle emploie, et pour cela dispose d'un lexique foisonnant. Celle qui articule délicatement chaque syllabe, comme si elle maniait la plus fine des dentelles, et qui ne fait aucune faute de syntaxe. Telle Gisèle, qui me paraît être un bon exemple d'emploi du vintage dans la langue. pas pour un seul mot utilisé comme un accessoire, à la manière des lunettes Ray-Ban du pilote, mais dans sa globalité, comme le total look de Tom Cruise dans Top Gun. Qui est donc Gisèle ? Une internaute de plus de 70 ans, interviewée sur le LOLCAT, et qui tente une définition via sa webcam. Si vous le demandez, je mettrai le lien sur Facebook d'Échec et Glutamate. Donc, Gisèle s'attache à expliquer ce phénomène du moment qu'il est estampillé John et qui contient ses propres codes également. Et j'ai trouvé cette interview, sa réponse très belle, à rapprocher des beaux livres dont parle Proust. Je crois qu'avec Gisèle, on assiste à, je cite Deleuze, une sorte de langue étrangère qui n'est pas une autre langue, ni un patois retrouvé, mais un devenir autre de la langue. Une minoration de cette langue majeure, un délire qui l'emporte, une ligne de sorcière qui s'échappe du système dominant. C'est-à-dire qu'il y a un mix de deux langages dans la bouche de Gisèle. Le style dominant serait celui des réseaux sociaux, du jeune internaute donc. Elle évoque ici, je cite, « des formes anthropomorphiques, des photos de chats, touchants ou cocasses ». Elle explique que l'on légende ces petites photos avec les mêmes caractères typographiques et que l'on ne tient pas lieu de la grammaire. Ainsi, cette petite mamie me touche énormément. Elle réinvestit la culture du LOLCAT avec sa propre réception et crée selon moi de quoi faire un beau livre. Gisèle est une poétesse, comme toute personne qui réinvestit un bel objet ou vêtement pour une lecture différente et audacieuse. Ainsi mon conseil de la semaine pour les plus fauchés d'entre vous, si tu n'as pas de quoi te payer le pantalon de Coco Chanel mais que tu souhaites faire de la poésie, va discuter avec ta grand-mère jeune, tu seras le plus swag d'entre nous.
Oui, voilà. Voilà,
ça c'est du jingle, ça.
Bah, ouais. En plus, il est parti que de la moitié jusqu'à la fin. Donc c'est pour ça que j'ai dû le renvoyer. Voilà. Donc on aime bien faire les choses bien.
Ça passait, la preuve. Voilà. Ça passait.
On a vu qu'on a encore un peu, on va dire, transporté par la chronique de Soso.
C'était
une belle chronique. Hein, ouais.
C'était bien.
Comme à chaque fois.
Gentil.
Une vision féminine, un peu, ça fait du bien quand même.
Ça fait du bien. Ouais.
C'est vrai, non, mais c'est vrai en plus. Alors, on a. Pour vous les filles, un truc, voilà. C'est rare mais ça arrive.
Pour vous les filles,
ouais. Voici le conseil d'une femme, ce que l'on appelle une inspiration vintage, simple et rapide pour faire un chignon, donc vintage. Oula. Écoutez bien.
Chignon inspiration vintage, simple et rapide. On brosse les cheveux afin de bien les démêler. On met un peu de sérum dans les creux de la main. On la frotte avec l'autre pour l'étaler et on l'applique sur les cheveux pour leur donner de la vaillance et les rendre plus soyeux. À l'aide d'un peigne, on amène les cheveux vers l'arrière en faisant attention de ne pas écraser l'arrêt afin que le résultat soit plus frais. On enlève les bosses avec le peigne. On attache les cheveux au milieu de la tête avec des barrettes. Deux de chaque côté en les croisant doit être suffisant. On prend un tiers des cheveux. On enroule sur les doigts et on les rentre un peu afin que les côtés du chignon soient bien finis. On fixe avec des barrettes à chignon. Le secret pour qu'elle prenne bien les cheveux est de les mettre du côté contraire à celui qu'on veut en prenant une petite mèche et la retourner en l'enfonçant bien dans les cheveux. On prend le tiers central des cheveux et on l'enroule pareil que le premier mais sans les rentrer. On le pose sur la tête en cachant un peu la partie des cheveux qui est déjà attachée et on fixe. On met aussi des barrettes de façon à ce qu'elle relie la deuxième partie des cheveux avec la première pour faire un tout. Avec le dernier tiers de cheveux, on procède de la même manière qu'avec le premier. On l'enroule et on le rentre. On fixe avec des barrettes en prenant aussi la partie centrale de la coiffure pour relier ce qu'on vient de faire avec le reste. S'il reste des mèches qui ne sont pas encore bien attachées, fixe-les aussi. On met une barrette accordée à la tenue juste en dessus du chignon afin de rendre la coiffure plus belle et travaillée. On repasse le peigne une dernière fois pour que la coiffure soit parfaitement nette. Pour finir, un halo de lac afin que la coiffure tienne bien. Enjoy your look.
Merci mademoiselle pour ces divins conseils. J'espère que les filles, maintenant vous savez comment faire une coupe tout à fait vintage. On va enchaîner avec un morceau, mon petit prof Tob.
Un petit morceau, oui, parce qu'en mode vintage, il y a quand même des groupes qui sont considérés comme vintage, c'est-à-dire ça se définit comme des groupes qui ont un son saturé mais à la fois très clair.
Ah.
À l'ancienne. Et donc, juste avant, on avait écouté un petit morceau de Deep Purple qu'on avait présenté qui s'appelle Bloodsucker, suceur de sang. Et dans la même famille musicale qu'on considère comme vintage, il y a bien sûr Led Zeppelin. Et on vous laisse avec le premier morceau du premier album. Dites-vous que quand Led Zeppelin a éclaté à la face du monde, on a entendu ça en premier, Good Time, Bad Time.
Épisode 1, saison 1, quoi.
Épisode 1, saison 1.
Très bien.
Sans George Lucas. I've tried.
France, ça change. Faut jamais se laisser démonter.
Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Eh oui, les cons, ça ose tout, comme le dit Lino Ventura dans l'indétrônable Les Tontons Flingueurs. Et le vintage, les cons, ça ose aussi, concept fantôme pour Génération Sans Mythe. Il symbolise surtout l'âge 20, celui des enfants qui, détroussant les greniers de leur carton mal scotché, auraient trouvé dans le perfecto de papa et les bottes à franges de maman l'authenticité du style, la vérité. Vintage, avec l'accent s'il vous plaît, d'outre-mer ou d'outre-tombe, moins fameux que les mémoires de Chateaubriand, car le vintage, même lifté dans les vitrines de Formol, conserve son odeur d'époque. Celle du tabac froid, d'un cagibi à moquette murale. So hype, no? Et tous nos clowns sont de sortie à brandir le classique en effigie. Même le pento et les pubis mal rasés. On veut de l'eau de Cologne pour nos WC, un transistor, des brunes sans filtre et du whisky pour nos soirées. Une mobilette et une quatrenne sur la chaussée. Des lettres d'amour, pas des textos. Amazing. Un taux de croissance à faire péter le PIB. Bref, vive le passé et l'idée que l'on s'en fait. Il faut croire en l'histoire ancienne, nous a chanté Léo Ferré. Croire en la légende, dont la vertu est dans le tissu. Juteuse affaire pour nos marchands du temple, prête à porter à dada sur mon bidet. Veuillez insérer votre carte. Oui, la magie du vintage, c'est d'avoir fait du passé un projet. Money, money.
We'll be right back. ça a débuté comme ça. Par une nouvelle écrite en 1939 de Jorge Luis Borges, écrivain argentin intitulé Pierre Ménard, auteur de Quichotte, du Quichotte. Dans cette nouvelle, Borges met en scène un auteur, Pierre Ménard, voulant réécrire le Don Quichotte de Cervantes, livre du XVIIe siècle, à l'identique, sans pour autant le recopier, sans même se placer dans les mêmes conditions d'écriture que Cervantes, afin de retrouver le processus originel qui avait donné naissance au roman, mais en tentant d'arriver à l'écriture du Quichotte à partir de ses propres expériences et de sa propre vie. Et voilà ce que ça donne. Comparer le Don Quichotte de Ménard à celui de Cervantes est une révélation. Celui-ci, par exemple, écrivit, Don Quichotte, première partie, chapitre 9, « La vérité, dont la mère est l'histoire, émule du temps, dépôt des actions, témoin du passé, exemple et connaissance du présent, avertissement de l'avenir. » Rédigé au XVIIe siècle, rédigé par le génie ignorant Cervantes, cette énumération est un pur éloge rhétorique de l'histoire. Ménard écrit en revanche « La vérité, dont la mère est l'histoire, émule du temps, dépôt des actions, témoin du passé, exemple et connaissance du présent, avertissement de l'avenir. » Là, vous vous dites « Bon, ok. Pierre Ménard a bien réécrit à l'identique le Quichotte de Cervantes. » Et vous vous dites « C'est la même chose. » Et Borges répond « C'est la même chose, soit, mais c'est pas pareil, et du coup c'est différent, même si c'est la même chose. » Et bon, reste de conclure. Ménard, peut-être sans le vouloir, a enrichi l'art figé et rudimentaire de la lecture par une technique nouvelle, la technique de l'anachronisme délibéré et des attributions erronées. Cette technique, aux applications infinies, nous invite à parcourir l'Odyssée comme s'il était postérieur à l'Énéide et le livre Le Jardin du Centaure de Madame Henri Bachelier comme s'il était de Madame Henri Bachelier. Voilà. Idée surréelle et fantastique, réécrire le Quichotte à l'identique aujourd'hui, c'est aussi le changer, dire autre chose, même s'il semble que l'on dise la même chose. Et là, je vais reparler de banane aussi. Jean-Paul Sartre n'affirmait pas autre chose lorsqu'il disait « La littérature, c'est comme les bananes, ça se consomme sur place. » Sartre ne dit pas seulement que les techniques d'importation de la banane, depuis les lieux de sa production jusqu'aux lieux de sa consommation, changent radicalement le goût de la banane, mais bien plus qu'il n'est pas possible d'apprécier une bonne banane autrement que sur place, cueillie à l'arbre. La littérature, c'est à la fois la même chose et c'est pas pareil. En lisant le Don Quichotte de Cervantes dans la France d'aujourd'hui, c'est un peu comme si l'on importait une banane de très loin. Mais il ne faut pas déplorer le fait que l'on ne puisse plus entendre le Quichotte à la juste hauteur depuis laquelle ses contemporains l'ont entendu. Sinon, autant jeter toutes les œuvres du passé au feu. Borges, dans cette nouvelle, s'amuse à dire que Ménard a peut-être écrit un meilleur Quichotte que Cervantes alors qu'il l'a réécrit à l'identique. Pour le vintage, c'est la même chose. Prendre un vêtement des années 50 et le porter aujourd'hui, c'est à la fois pareil et pas pareil. Et moi, Captain Beefsteak, ce que je postule ici, c'est que ce vintage-là, ce n'est pas l'expression d'un « c'était mieux avant », ce n'est pas non plus l'envie de se déguiser en grand-père ou grand-mère, ce n'est pas une nostalgie. Le vintage, c'est une idée d'électricien fou. C'est brancher une jupe portefeuille de 1962 sur des hanches de 2013. C'est court-circuiter le cours du temps juste pour voir ce que cela donne. C'est affirmer sans le dire, sans le parler, mais en le portant sur soi, la silhouette humaine comme éminemment plastique. Réécrire le Quichotte, à l'identique aujourd'hui, et porter un duffelcoat de 56, c'est la même chose, dans l'intention et dans le résultat. Ce que l'un dit de la littérature, l'autre le dit de la silhouette. Ceci étant dit, je voudrais profiter de l'occasion de ma prise de parole pour pousser un petit coup de gueule, parce que oui, Captain Beefsteak n'est pas seulement cette personne affable et gentille, serviable et généreuse, compréhensive et bienveillante. Il y a quand même des trucs qui me gonflent, en dehors des cintres, objet que je hais presque autant que les cuisines ouvertes, et que je déteste d'autant plus que je sais ne pas pouvoir m'en passer, il y a donc des trucs qui me gonflent. Comme lorsque l'on me dit « Les vêtements, c'est pas important, moi la mode, je m'en fous, de toute façon je m'habille avec ce que je trouve. » Ça me gonfle. Ça me gonfle presque autant que lorsque j'entends « J'écoute pas cette musique-là, parce que tu vois, je la trouve trop commerciale. » Celui qui croit qu'il est rebelle parce qu'il ne fait pas attention à ce qu'il porte, ne se rend pas compte qu'il fait l'inverse de ce qu'il croit être. C'est une façon de penser conservatrice qu'il pérennise en croyant que le vêtement n'a pas d'importance. Le vêtement n'est pas un accessoire, c'est un écrin à la parole. Le bien s'habiller est un lubrifiant de la conversation. Mais pas que. S'habiller, c'est obligatoirement prendre position sur des questions comme qu'est-ce que le corps, qu'est-ce qu'une silhouette, qu'est-ce que cela veut dire la lutte des classes, etc. S'habiller, c'est choisir son camp. comme les Azous dans l'entre-deux-guerres qui portaient des vêtements trop longs alors que le tissu était rationné, qui gardaient les cheveux longs alors qu'un décret vichiste faisait des cheveux récupérés chez le coiffeur une matière première d'intérêt public pour la confection des pantoufles. Et celui qui me dit « C'est vrai, hein. C'est historique ça, mais mec, je rigole pas là !» Et celui qui me dit « Ne pas y porter attention » est le plus conservateur d'entre tous. Pourquoi celui qui me dit « Ne pas porter attention à l'habit » n'est pas vêtu d'un sac en toile de jute avec deux trous pour les bras, un pour la tête et deux pour les jambes ? Ce serait plus cohérent. Et dans ce cas, ce serait quand même prendre position sur ce qu'est l'habit, la silhouette, le corps social. Non, non. Cette personne qui me dit n'en avoir rien à faire de la façon dont elle s'habille se trouve vêtue d'un pantalon, d'un sweatshirt et d'une paire de chaussures. Elle a quand même choisi de s'habiller ainsi. Elle a choisi de pérenniser une tradition de la silhouette. Et même si elle a lu nos logos de Klein, elle ne déconstruit rien. Elle se trouve être conformiste dans son soi-disant anticonformisme. Ce qui est largement pire que de se dire conformiste en l'étant vraiment. Dire « je ne fais pas attention à la manière dont je m'habille », c'est comme de dire « je ne dis jamais la vérité ». Si je dis « je ne dis jamais la vérité », je dis la vérité au moins une fois, ce qui rend cet énoncé faux. C'est ce que l'on appelle une contradiction performative. Dire « je ne fais pas attention à la manière dont je m'habille » est faux et impossible, et tente de construire l'image d'un rebelle là où je ne vois qu'un conformiste qui doit secrètement être contre le mariage gay et considérer que les chômeurs sont des assistés. Je rends la parole avec Skrillex et un morceau qui sera vintage en 2047. We'll be right back.
Et oui, c'est la fin de Radio Canu. Non,
non c'est pas la fin de Radio Canu, c'est la fin d'Échec et Glutamate.
Si c'est la fin de Radio Canu, c'est la fin du monde. Hein.
Ah, vraiment.
Rendez-vous la semaine prochaine pour un thème intitulé La conquête du ciel.
La conquête du ciel. Sur le 102.2, la plus rebelle des radios. Des radios radieuses.
Voilà.
Je me suis rattrapé.
Vous pouvez nous retrouver grâce à notre blog qui est situé pas très loin de chez vous, devant votre ordinateur.
Pas très loin du ciel.
Pas très loin de votre oreiller d'ailleurs. Si une nuit vous vous levez, vous avez accès à foutre, vous pouvez éventuellement laisser votre ordinateur et consulter notre blog qui s'appelle Échec et Glutamate. Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine, pas de sang, pas de haine. Merci à nos chroniqueurs. Merci à vous de nous écouter car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Et ça,
ça fait plaisir.
Ça fait plaisir, c'est très très bien.
C'est bon dans le cœur.
Salut, bye.
Gros bisous à tous.
Bisous, bisous. Avec le morceau des Chicks on Speed remixé par Dave Clark. Et bien sûr, restez bien sur le 102.2 Radio Canu car c'est bientôt l'heure de Méga Combi. Allez, salut, ciao.